Bonjour à tous, bonjour mon père, Dominique Salin. Nous vous remercions d'être avec nous ce soir pour 5 podcasts. Nous vous avons demandé si vous pouviez nous parler, nous éclairer sur les sens et en quoi peuvent-ils jouer dans la vie spirituelle. Mais peut-être avant, mon père, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Oui, tout à fait, bonjour. Je suis un jésuite bordelais qui est pas très loin de 80 ans. J'ai été professeur longtemps de littérature spirituelle et de théologie au Centre Sèvres à Paris pendant 35 ans. Auparavant, j'avais été professeur de lycée, professeur de lettres. Et je m'intéresse à la vie spirituelle, plus précisément à la littérature qui témoigne de la façon dont les chrétiens vivent leur vie spirituelle.
Merci de nous accorder ce temps pour parler des cinq sens. On va donc avoir plusieurs podcasts ensemble, mais sur ce premier podcast, on avait une problématique à vous soumettre, qui
Oui.
était qu'aujourd'hui, les cinq sens, est-ce que ça nous aide à accéder à une forme de spiritualité ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux se couper nos sens pour accéder à la spiritualité?
Ah, c'est une bonne question. Effectivement, dans un premier temps, on a envie de dire les sens, c'est l'ouverture sur le monde extérieur. Et lorsqu'il s'agit de faire une expérience spirituelle, de vivre une expérience spirituelle, de se recueillir, la réaction spontanée, c'est de boucler les cinq sens. Les cinq sens, ce sont des portes ouvertes sur la vie extérieure, le bruit, le mouvement, tout ce qui distrait, tout ce qui disperse, bref, tout ce qui empêche de penser, de réfléchir, de méditer. Quand je veux méditer, spontanément, je ferme les yeux. Donc, on a l'impression que la vie spirituelle, ça commence par fermer les portes et les fenêtres de l'âme. Alors, il y a du vrai là-dedans, mais il y a surtout beaucoup de faux. Parce que, en réalité, notre moi intérieur, il ne se nourrit que de ce qui lui vient de l'extérieur. Il y a un adage philosophique très très ancien qui remonte à Aristote, qui dit qu'il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait d'abord été dans les sens. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dans ma tête, ce sont des images mentales qui me viennent par les yeux, par les oreilles, par le toucher, etc. On ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas méditer sans images. Les images, elles me viennent de l'extérieur. Donc on est obligé de passer par les sens. Les sens, ce n'est pas du tout incompatible, l'ouverture des sens et la vie intérieure. Et pour ne pas aller tout de suite dans le domaine religieux, mais dans le domaine de l'expérience humaine, la poésie nous apprend ça. Un poète comme Baudelaire, par exemple, qui est un poète très très spirituel, est en même temps un poète extrêmement sensuel. Dans son célèbre poème Correspondance, Baudelaire dit que il veut chanter les transports de l'esprit et des sens. Les transports de l'esprit, c'est-à-dire les grandes joies intérieures, les grandes souffrances intérieures aussi, elles vont de pair avec la capacité que nous avons à sentir, à être sensible à la beauté des formes, à la beauté de la musique, à la lumière, etc. Donc, on peut être à la fois, comme Baudelaire, quelqu'un d'extrêmement sensuel et très spirituel. Donc, d'une certaine façon, c'est un peu vain de vouloir fermer les écoutilles des sens pour prétendre pouvoir accéder à une vie intérieure riche.
Merci beaucoup, mais pourtant, il existe des auteurs, des religions, des courants de pensée. Vous savez, je pense aux bouddhistes qui se ferment pour avoir accès à cette spiritualité. D'ailleurs, ils mettent fermeture, non? Il me semble que les bouddhistes ont une certaine fermeture pour d'eux-mêmes pour avoir accès à la spiritualité, qui est un peu en opposition avec la sensualité et l'essence de Baudelaire.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a toute une tradition occidentale qui dit que pour accéder au bonheur, à la paix intérieure, il faut fermer les sens. Et il y a une célèbre représentation, c'est celle des trois petits singes de la sagesse. Ce sont trois petits singes qui se couvrent chacun une partie du visage avec leurs mains. L'un se couvre les yeux, l'autre se couvre les oreilles, le troisième se couvre la bouche. Alors ça veut dire que le secret de la sagesse, ça consisterait à ne pas voir, ne pas entendre, ne rien dire. Celui qui ferait cela, il ne pourrait lui arriver que du bien. Parce que lorsqu'on ouvre les yeux, lorsqu'on ouvre les oreilles, et lorsqu'on laisse parler sa langue, il y a beaucoup de mal et de souffrance qui peut passer par là. Donc la sagesse commencerait par la clôture des sens. Il y a toute une tradition de sagesse qui vient d'Asie, de Confucius, les trois petits chimpanzés, ça vient de Confucius, mais on trouve la même leçon de sagesse chez Siddhartha, le premier Bouddha, et aussi dans la tradition grecque ancienne, la tradition grecque païenne, d'où vient notre culture occidentale, la tradition néoplatonicienne, par exemple, tout ce qui est corporel, matériel, sensoriel, est dangereux pour la vie de l'âme. Et on peut dire que dans cette tradition spirituelle et philosophique, l'âme aspire à être libérée du corps. Le corps est une prison. En grec, il y a un jeu de mots, soma, sema. Soma, le corps, sema, la prison. Le corps est une prison pour l'âme. La matière est mauvaise. Le monde matériel, en général, est pour l'âme un lieu d'exil, un lieu d'épreuve. L'âme aspire à en être délivrée pour s'élever vers le ciel de l'éternité. Pour mener une vie spirituelle, selon cette tradition européenne, ancienne, il faudrait faire violence au sens du corps. Et l'idéal serait de les court-circuiter. Les sens sont dangereux. Par exemple, la vue. Il peut être dangereux de chercher à voir la vérité. C'est une des leçons possibles du mythe de Eros et de Psyché que raconte le grand écrivain Apulée, écrivain nord-africain du IIe siècle après Jésus-Christ. Apulée raconte que Eros, le dieu de l'amour, s'était épris de la princesse Psyché, l'âme. Psyché n'avait jamais vu Eros. Eros la rejoignait la nuit dans son lit. C'était un merveilleux amant. C'est tout ce qu'elle savait de lui. Elle ne connaissait même pas son nom. Mais évidemment, elle brûlait de curiosité. Qui était cet amant nocturne? Comment était-il? Alors une nuit, pendant son sommeil, elle se leva sur la pointe des pieds, elle a cherché une lampe à huile et s'approcha de son amant endormi. Qu'il était beau! Malheureusement, dans son saisissement, elle renversa de l'huile brûlante sur la cuisse de son amant. Celui-ci s'éveilla et, furieux d'avoir été démasqué, disparut pour jamais. Ce qu'il y a à retenir de cette histoire, qui est beaucoup plus complexe que ce que j'en ai dit, c'est ceci. La vue est dangereuse pour l'âme, pour la psyché. La curiosité est plus qu'un vilain défaut. Les sens, le bonheur, est au-delà des sens. Cette vision de la sagesse grecque est très caricaturale, bien sûr, mais elle a fortement marqué notre tradition européenne.
Ce que je comprends, c'est que par les sens, il vaut mieux les bloquer pour accéder à une certaine forme de sagesse, à une certaine forme de vérité. Oui. Mais pourtant, quand on est face à un très beau paysage, on sent en harmonie, on est tiré par quelque chose qui nous amène à une forme de spiritualité. Donc, ça peut être au contraire vraiment un point de passage pour arriver à se sentir heureux, pleinement épanoui, de passer par les sens.
Oui, bien sûr. Nous verrons dans la suite de nos entretiens qu'en réalité, on ne peut pas se passer des sens, mais que l'activité sensorielle a besoin d'être canalisée, filtrée. Mais c'est vrai que les sens peuvent être la source de joie et de bonheur extrêmement profond et extrêmement spirituel. C'est vrai que la vue d'un paysage, ça suscite en nous des sentiments de dilatation intérieure qui nous font pressentir qu'il y a en nous plus que nous-mêmes. Et je n'en veux pour preuve, peut-être pourrions-nous nous mettre fin à cet entretien là-dessus, sur une une expérience très, très, très célèbre qui montre comment une expérience purement sensorielle peut ouvrir à une expérience spirituelle très profonde, spirituelle au sens large du mot, expérience qui permet à l'homme de pressentir qu'il y a en lui plus que lui-même. Mais cette expérience, elle a été faite, elle a été racontée par Marcel Proust dans les premières pages du premier roman de la série « La recherche du temps perdu ». Je la rappelle brièvement. Le narrateur explique qu'il est alors à l'époque un écrivain débutant et assez incertain sur sa vocation littéraire. C'était un soir d'hiver, plutôt mélancolique. Il était chez sa mère, il prenait le thé avec elle et à un moment, il a trempé distraitement un fragment de madeleine dans sa cuillère à thé. Alors, je lis ce qui est écrit par Proust. À l'instant même où la gorgée, mêlée des miettes du gâteau, toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause. Il m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes. Ses désastres, inoffensifs. Sa brièveté, illusoire. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Que signifiait-elle? Le narrateur pressent que cette saveur très spécifique lui rappelle quelque chose de son passé. Mais quoi? Et il lui faudra du temps, de longs moments d'efforts infructueux pour que surgisse brusquement, du fond de sa mémoire, un moment très spécifique de son enfance. Et puis finalement, son enfance elle-même. Et finalement, toute sa vie. Alors, de cette expérience de résurrection, en fait, ça lui rappelle, si vous voulez, la petite madeleine que sa vieille tante lui faisait goûter lorsqu'il était tout petit et qu'il allait lui rendre visite dans sa chambre. Tout d'un coup, cette sensation a ressuscité en lui toute son enfance et finalement toute sa vie. Et alors, de cette expérience de résurrection du passé sortira, en fait, la grande fresque romanesque intitulée « À la recherche du temps perdu ». Autrement dit, une simple sensation avait ressuscité l'écrivain, l'écrivain qui était malheureux, qui était un peu déprimé. Elle l'avait libéré et elle avait ressuscité tout un monde intérieur. À la suite de quoi, il savait ce qu'il allait écrire. Et ce qu'il allait écrire, ce sont les trois volumes, « La recherche du temps perdu », qui étaient contenus dans cette cuillerée de thé. Donc on peut dire que le sens du goût a fait faire à Marcel Proust une expérience spirituelle. Il a pu retrouver intact un moment de son passé. C'est un événement spirituel extrêmement, extrêmement humain. L'animal n'est pas capable de ça. Il avait fait une expérience spirituelle d'une profondeur et d'une portée exceptionnelle. Eh bien, on peut dire que mener une vie spirituelle, que ce soit dans la tradition chrétienne, dans la tradition bouddhiste ou d'autres, c'est être ouvert à ce genre d'expérience-là, le genre d'expérience pour lesquelles les sens sont très importants et sont nécessaires.
Oui, c'est ça. Vous voulez dire arriver à une expérience comme celle de Marcel Proust, c'est-à-dire utiliser les sens pour retrouver une réalité, pour retrouver un vécu, pour accéder au bonheur, c'est ça?
Voilà, pour nous faire éprouver un bonheur, c'est d'ordre esthétique. Nous ne sommes pas dans l'ordre mystique ici, nous sommes dans l'ordre esthétique, c'est-à-dire de ce qu'on ressent, de ce qu'on éprouve. Les sens, en grec c'est le mot aisthésis, d'où vient le mot esthétique. Les sens, c'est ce qui nous permet de ressentir, d'éprouver des sentiments qui ne se réduisent pas à l'animalité ou à la matérialité. Si vous voulez, ce sont des expériences qui attestent que notre esprit en nous est plus grand que nous-mêmes.
Merci beaucoup pour cette introduction.
C'est une entrée en matière.
Ben oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Peut-être pouvez-vous nous indiquer de quoi nous allons parler pour la prochaine émission, en laissant peut-être un peu de suspense.
Je pense que nous pourrions parler de deux ou trois sens particuliers. Pendant la prochaine fois, nous pourrions parler de la vue, l'importance de la vue, du voir et du non-voir dans la vie spirituelle. Et puis parler aussi, pour ce qui est du christianisme proprement dit, de la doctrine élaborée depuis longtemps par les sages chrétiens, la doctrine de ce qu'ils appellent la garde des sens. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas laisser entrer dans notre esprit n'importe quoi. Donc, il est important qu'une certaine forme de douane régule l'accès du monde extérieur à notre esprit. Il y a des réalités qu'il convient d'écarter, d'autres au contraire qu'il convient d'accueillir avec gratitude, si on veut être heureux.
Mais c'est un bon programme. Merci voilà. Beaucoup. Merci pour aujourd'hui.
Eh bien, merci et bonsoir.
Bonne soirée. Merci beaucoup.